Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 5 Rodad, 1401 du calendrier iranien, 26 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Les chances de relancer l'accord nucléaire sont au mieux tenus, a déclaré l'envoyé spécial américain pour l'Iran. Les sanctions économiques contre les intérêts du peuple iranien constituent le principal obstacle à la sauvegarde de l'accord nucléaire, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran exige une condamnation officielle par les Nations unies de l'assassinat d'un officier de ses forces armées. Guerre en Ukraine, Zelensky n'est pas prêt à céder des territoires en échange de la paix. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La principale raison de l'interruption des négociations à Vienne est les sanctions économiques qui visent directement les intérêts du peuple iranien, a insisté le ministre iranien des Affaires étrangères depuis Davos, où il est pour participer au Forum économique mondial. Les revendications de l'Iran ne doivent pas être réduites, a-t-il souligné à l'occasion d'un entretien à Davos avec le journaliste américain Farid Zakaria, avant d'indiquer « Pour que l'accord de 2015 soit relancé, les États-Unis doivent prendre certaines mesures ». Il a ajouté que l'Iran s'est engagé à conclure un bon accord fiable et durable, ajoutant que des garanties économiques des États-Unis sont une condition très importante de tout accord futur. Il a noté que l'Iran devrait pouvoir commercer normalement avec d'autres pays sans aucune entrave. Fustigeant l'administration indécise de Biden, Hossein Amir Abdollahian a indiqué que Joe Biden suivait l'exemple de l'administration précédente. Si Biden est différent de Trump, il doit le montrer, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. L'Iran exige une condamnation officielle par les Nations unies de l'assassinat d'un officier de ses forces armées il y a quelques jours. Le colonel Hassan Seyed Khodaï, membre du corps des gardiens de la révolution islamique, a été assassiné dimanche par des terroristes devant sa maison à Téhéran. L'ambassadeur d'Iran à l'Organisation des Nations unies a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour exhorter l'organisation mondiale à dénoncer cet assassinat dans le cadre de sa responsabilité de lutter contre le terrorisme. Majid Tartaravanchi affirme que certains régimes cherchent à faire avancer leur velléité avec des projets d'assassinat systématique de citoyens et de scientifiques iraniens. Selon les médias américains, Israël a informé les autorités américaines qu'il était derrière le meurtre du colonel des forces armées iraniennes. Les traces d'Israël sont déjà visibles dans un certain nombre d'attaques terroristes et de sabotages contre des sites nucléaires iraniens et les savants atomistes. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a salué la victoire sur Israël en l'an 2000, affirmant qu'il s'agissait d'une réalisation sans précédent pour la résistance. Seyed Hassan Nasrallah a tenu ses déclarations lors d'un discours à l'occasion du 22e anniversaire de la libération du sud du Liban. Il a déclaré que la victoire avait contrecarré le projet du régime sioniste de créer un grand Israël. Seyed Hassan Nasrallah a réitéré que le Hezbollah se battait pour protéger le Liban et son peuple sans avoir aucune intention de prendre le pouvoir. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a ajouté que le mouvement de la résistance ne demande la permission à personne pour protéger son pays. Il a également mis en garde Israël contre la poursuite de ses agressions contre la mosquée Al-Aqsa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rejette les suggestions selon lesquelles son pays devrait céder du territoire et faire des concessions pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le président ukrainien n'est pas prêt à céder du territoire ukrainien en échange de la paix, a-t-il fait savoir en colère mercredi, lors d'une prise de parole en vidéoconférence au Forum économique de Davos en Suisse. Il réagissait à une suggestion de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, selon laquelle l'Ukraine devrait laisser la Russie conserver la Crimée qu'elle a annexée en 2014. Zelensky a rejeté ces allégations, affirmant que les négociations pour un accord de paix ne peuvent pas reprendre tant que la Russie n'aura pas retiré ses troupes. Volodymyr Zelensky a par ailleurs dénoncé un manque d'unité des pays occidentaux face à la guerre en Ukraine et a affirmé avoir besoin du soutien d'une Europe unie. Et enfin, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires grec pour transmettre à Athènes la vive protestation de Téhéran concernant la saisie d'un navire battant pavillon iranien et de sa cargaison. Un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la Grèce avait saisi le navire sous la pression illégale des États-Unis. Il a déclaré que le navire s'était arrêté dans les eaux grecques en raison d'un problème technique et que la saisie était contraire aux obligations internationales d'Athènes. Le responsable a déclaré que la saisie de la cargaison de ce navire équivalait à un piratage international, tenant pour responsable le gouvernement grec et ceux qui ont illégalement saisi la cargaison. Le diplomate iranien a ajouté que le gouvernement de la République islamique d'Iran ne négligerait pas ses droits légaux dans cette affaire et s'attend à ce que le gouvernement grec respecte ses obligations internationales. La Grèce a saisi le navire battant pavillon iranien dans ses eaux. Sa cargaison a été aussi saisie en coordination avec le gouvernement américain. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Malley, a reconnu une fois de plus que l'abandon de l'accord de 2015 avec l'Iran ne servirait pas les intérêts de Washington, mais a déclaré que les perspectives de relance de l'accord étaient au mieux tenues. Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord, et les perspectives d'en conclure un sont au mieux tenues, a déclaré Robert Malley lors d'une réunion de la commission sénatoriale des relations étrangères mercredi. Robert Malley a déclaré que l'accord avec l'Iran en 2015 fonctionnait jusqu'à ce que Washington, sous l'ex-président Donald Trump, a décidé de s'en retirer en 2018. L'administration du président Joe Biden croit toujours que les efforts pour rétablir l'accord sur le nucléaire iranien sont dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, a-t-il ajouté. Le négociateur en chef des États-Unis pour les pourparlers de Vienne a déclaré que l'administration Joe Biden est prête à revenir dans l'accord de 2015 tant que les évaluations américaines indiquent que ses avantages en matière de non-prolifération valent la levée des sanctions. Si l'Iran maintient des demandes qui vont au-delà de la portée de l'accord nucléaire, nous continuerons à les rejeter et il n'y aura pas d'accord. Ce n'est pas notre préférence, mais nous sommes tout à fait prêts à vivre avec et à affronter cette réalité si tel est le choix de l'Iran, a déclaré Robert Malley. Le diplomate américain faisait apparemment référence à la demande de la République islamique d'Iran de retirer le corps des gardiens de la révolution islamique de la liste des organisations terroristes étrangères de Washington. La République islamique d'Iran soutient que la désignation du corps des gardiens de la révolution islamique en 2019 en tant qu'organisation terroriste faisait partie de la soi-disant campagne de pression maximale de l'administration Donald Trump contre la République islamique d'Iran et que par conséquent elle doit être annulée sans condition. L'administration Biden n'est pas d'accord, même si elle a admis à d'innombrables reprises que la politique de pression maximale de Donald Trump a été un échec désastreux. Il a conservé la désignation du corps des gardiens de la révolution islamique et les sanctions économiques comme levier de sanctions et de pression sur les pourparlers. Robert Malley a déclaré que cette question sortait du cadre de l'accord nucléaire, exhortant la République islamique d'Iran à faire des concessions au-delà de l'accord s'il voulait que la désignation soit supprimée. Nous avons clairement indiqué à l'Iran que s'il voulait une concession sur quelque chose qui n'était pas lié à l'accord nucléaire, nous avions besoin de quelque chose de réciproque de leur part qui répondrait à nos préoccupations, a déclaré l'envoyé spécial américain. L'Iran a décidé qu'il n'était pas prêt à prendre les mesures réciproques. Ils doivent décider maintenant, sont-ils prêts à conclure un accord sans exigences étrangères, a-t-il ajouté, sans révéler les exigences de Washington. Plusieurs cycles de négociations entre la République islamique d'Iran et les cinq autres parties de l'accord nucléaire, à savoir la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie, se sont tenus dans la capitale autrichienne depuis avril 2021 pour ramener Washington dans l'accord. Les diplomates américains n'ont pas été autorisés à se joindre directement au pourparlers en raison du retrait unilatéral de Washington en 2018. Plus tôt ce mois-ci, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran et ses interlocuteurs avaient encore la possibilité de parvenir à un accord bon et fiable si les États-Unis prenaient la décision nécessaire et honoraient leurs engagements.
Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a effectué lundi une visite officielle à Oman. L'expansion de la coopération bilatérale était à l'ordre du jour lors de cette visite. Plusieurs notes d'entente de coopération ont été signées entre les deux parties. Il s'agit des accords principalement axés sur les transports, l'énergie et le tourisme. Le président Raisi a souligné que Téhéran et Mascate étaient en accord significatif sur de nombreuses questions, dont la Palestine, le Yémen et la Syrie. Il a par ailleurs affirmé que le renforcement des relations entre les deux pays pourrait contribuer en effet au renforcement de la coopération régionale. Le président Raisi a également mis en garde contre les ingérences étrangères qui, en effet, risquent de déstabiliser davantage la région. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette visite, ce nouveau chapitre dans les relations des deux pays et bien sûr l'importance de cette visite dans différents domaines, notamment l'énergie, mais aussi en effet l'importance de l'organisation des manœuvres conjointes entre les deux pays pour faire face en effet au terrorisme maritime dans la région. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Qu'est-il allé faire le président Raisi au sultanat d'Oman, où il a été accueilli en grande pompe par le sultan Haitham bin Tariq? Il y a évidemment l'impératif de booster les relations séculaires de part et d'autre. Relations qui ne sont pas nées de la dernière pluie et qui sont bien solides comme du roc et qui ont joué à plus d'un égard dans les intérêts réciproques, ne serait-ce que par le nombre de fois où les deux capitales se sont prêtées la main forte pour régler des crises dans une région où les ingérences étrangères en créent régulièrement. Mais il y a peut-être plus dans la mesure où Oman est limitrophe à l'est du Yémen. Un est yéménite bourré de pétrole à Al-Mahra que qu'on voit en ce moment, ainsi que la seule lignée, le leader d'Ansar Allah, l'Amérique, les Américains cherchent à établir des bases dans l'est du Yémen, à nous dicter leurs concepts à travers un vrai faux cessez-le-feu. Or, les Yéménites ne sont pas du genre à se laisser leurrer. C'est dans cette perspective aussi qu'il faut analyser la visite du président Raisi à Oman, dont la nature de bonne relation avec Ansar Allah n'est secrète pour personne. Que compte faire l'Iran à Oman? Opérer peut-être dans le sens d'un endiguement des plans de pillage pétrolier US dans l'Est yéménite. Au fait, c'est là que Washington, grand bandit pétrolivore, pourrait avoir besoin d'Oman, et c'est pour lui couper l'herbe sous pied que Raisi, accompagné d'une très haute délégation, s'en serait allé chez le voisin. Lors de la visite du ministre iranien du pétrole à Mascate en Oman, En effet, suivi par celle du président iranien, l'Iran et l'Oman ont conclu des accords sur le développement intégré du champ pétrolier de Hingham dans le golfe Persique et sur l'exportation des services techniques des produits pétrochimiques et pétroliers. À l'issue des réunions séparées du ministre iranien du pétrole avec les ministres omanais de l'énergie et des mines et des affaires étrangères, des accords dans trois domaines ont été signés lors de la visite du président Ebrahim Raisi à Mascate. Mais outre cette perspective, l'Iran propose d'exporter des services techniques et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière omanaise, cible de la convoitise US, surtout à la lumière du débarquement des Yankees à Mahra, province yéménite limitrophe d'Oman. L'Iran et Oman ont ainsi conclu des accords dans le domaine de l'exportation de services techniques et d'ingénierie dans le secteur pétrolier. Ces dernières années, malgré les sanctions, l'Iran a pu mettre en œuvre des projets pétroliers gaziers, de sorte que les fabricants de l'industrie pétrolière iranienne ont désormais la capacité de concevoir et construire 85% de l'équipement de l'industrie et jusqu'à 100% de l'ingénierie. Et puis, au cours des dernières années, l'Iran a augmenté sa capacité de production de produits pétrochimiques.
Retour au plateau de l'émission du débat. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, et depuis Bruxelles avec M. Xavier Dupré, économiste et analyste politique. M. Dupré, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Ça faisait longtemps.
Monsieur Dupré, alors, concernant cette visite officielle du président Raisi à Oman, alors, dans le contexte actuel des évolutions de la région, eu égard à cette crise énergétique sur la scène internationale, d'abord, quelle est l'importance de cette visite sur le plan commercial et énergétique? Le timing, en effet, de ce déplacement, et dans quelle mesure cette visite et le renforcement des relations de part et d'autre pourraient contribuer, en effet, à une stabilisation de la coopération régionale en matière d'énergie?
Mais je crois qu'il faut vraiment analyser cette visite du point de vue d'une crise énergétique mondiale qui est aujourd'hui causée par, on peut quand même appeler ça comme ça, la nouvelle guerre froide entre les Occidentaux et la Russie. Et donc, il est très clair qu'aujourd'hui, effectivement, l'Est du Yémen aiguise les appétits occidentaux. Un second, en plus que l'Iran joue un rôle pivot de plus en plus important vers un monde multipolaire, puisque le sultanat d'Oman est traditionnellement proche des Occidentaux, mais la coopération énergétique, bien, si vous voulez, la guerre froide qui s'installe, le monde multipolaire qui s'installe, est telle qu'aujourd'hui, le sultanat d'Oman ne peut pas axer toutes ses relations extérieures en fonction des seuls desiderata des Occidentaux et dispose d'une marge d'autonomie qui est la résultante de l'affirmation d'un pôle alternatif à l'hégémonie des États-Unis. Évidemment, et ça c'est l'importance de la République islamique d'Iran dans ce dossier, on doit bien constater que si une coopération énergétique régionale importante voit le jour, et bien tout simplement, c'est une dimension importante de l'impérialisme occidental dans la région qui va s'estomper, qui va perdre en puissance d'affirmation. De ce point de vue-là, on va quand même constater que cette visite du président Raisi à Mascate représente une victoire importante pour la diplomatie iranienne, qui a toujours fait preuve de fermeté face aux différents impérialismes dans la région, l'unilatéralisme des États-Unis notamment. Et aujourd'hui, on voit clairement que cette ligne politique paie, puisque Oman, le sultanat d'Oman traditionnellement pro-occidental, qui t'a me répété, se rapproche de Téhéran. On voit bien qu'il y a une carte à jouer avec Téhéran. De surcroît, si le vieux projet de gazoduc entre l'Iran et le sultanat d'Oman voit le jour et permet à l'Iran de fournir le sultanat d'Oman, il faut bien se rendre compte qu'il y aura des paiements qui seront effectués dans le cadre de transactions financières tout à fait classiques, tout à fait normales, entre Mascate et Téhéran, ce qui veut dire que quelque part, aujourd'hui, un allié traditionnel, un pays proche des Occidentaux, dit clairement que les sanctions à l'égard de l'Iran ne le concernent pas et que ces dernières sont quelque part nulles et non avenues. Ça signifie, ça traduit une profonde affirmation, une profonde montée sur la scène régionale de la puissance iranienne. Et de ce point de vue, effectivement, cette visite est très significative et très importante.
Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur Dupré, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dorliguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, monsieur Codabandi. Bonjour à vos auditeurs et à notre ami Dupré.
Monsieur le professeur, depuis son entrée en fonction, le président Raïssi, le gouvernement du président Raïssi, en effet, poursuit comme un pilier de sa politique extérieure le renforcement des relations avec les pays voisins. Et dans ce contexte, comme M. Dupré l'a affirmé, cette visite du président Raïssi au sultanat d'Oman représente une victoire pour la diplomatie iranienne. Dans le contexte actuel des évolutions de la région, et étant donné que, comme M. Dupré a toujours l'a souligné, l'Iran joue un rôle de premier plan vers l'orientation du monde, vers un ordre, en effet, multipolaire. Quel est le message de cette visite sur le plan économique, énergétique, mais aussi, en effet, diplomatique?
En une formule, disons, bien intelligible, technologique, est un facteur, le seul facteur de sécurité dans la région. En effet, ce qu'apporte l'Iran, c'est sa capacité, je le répète, technologique. Bon, et ceci n'est pas simplement une utilité, entre autres. C'est une réalité. C'est-à-dire que l'Oman et l'Iran, donc, doivent... savent qu'ils sont voisins pour toujours. Et par là même, disons que l'avenir, c'est leur présence. Je veux dire, l'avenir de leurs affaires est lié à la qualité de leur présence. Et c'est naturellement, ceci est une réalité qui est acceptée également par tous les milieux, disons, dans le monde, qui sont liés aux affaires, liés à la réalité, et non pas à l'idéologie. Alors que les fauteurs de troubles dans la région, en particulier l'entité sioniste, bien sûr, qui essaie de faire agir ses alliés à l'intérieur des pays dans lesquels elle se trouve, et pas seulement aux États-Unis, sera en retrait par rapport justement à ce que je nomme les impératifs de travail, les impératifs de progrès commun, vous voyez, qui sont nécessaires, qui sont, si je puis dire, qui sont, je ne dis pas en dehors du temps, mais qui seront toujours dans le temps à venir. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que c'est ça la notion de réalisme. Et effectivement, on peut dire que la politique du président Raïssi, comme la politique de l'Iran de façon générale, c'est lié à son tempérament, au tempérament du pays, est fondée sur des réalités. Vous savez, c'est l'image, c'est ce que disait l'imam Roménie, ni Est, ni Ouest, soyons nous-mêmes. Voyez-vous, être nous-mêmes, c'est savoir que Oman est une réalité, qu'on dit souvent Oman est du côté des Occidentaux. Mais ceci est vrai, bien sûr, mais en même temps, il y a de la naïveté dedans. Chaque pays, vous savez, est en liaison avec le monde. Mais l'Iran sera toujours en liaison avec la Chine, en liaison avec la Russie, communiste ou pas, elle sera en liaison avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la réalité des choses. C'est la réalité matérielle. L'impératif, que je dis, technologique, qui le guidera, qui l'imposera, disons. Et tout le reste sont des bruits de guerre, voyez-vous. Des bruits de guerre qui, finalement, seront effacés par ce qu'on pourrait appeler une poussée des peuples, une volonté de vivre commune. Ce n'est pas une volonté subjective, c'est une volonté imposée par la nature.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur d'Ortiguière, restez avec nous. Monsieur Dupré, donc, outre, en effet, des enjeux économiques et énergétiques, il paraît qu'il y a aussi, en effet, d'autres enjeux, entre autres, un enjeu sécuritaire, concernant cette visite. Et comme monsieur le professeur d'Ortiguier l'a fait remarquer, des fauteurs de troubles qui poursuivent leurs manœuvres, leurs agissements malveillants dans la région, dans le cadre de leur politique d'iranophobie. Dans quelle mesure cette visite et cette coopération au niveau sécuritaire pourraient contribuer à sécuriser en effet des transports maritimes d'une part et d'autre part, mais aussi en effet à contribuer au règlement en effet des dossiers importants de la région, en l'occurrence la crise du Yémen ou encore et principalement la question palestinienne.
Je crois qu'il faut vraiment comprendre cette position, cette visite du président iranien à Oman du point de vue finalement d'une espèce d'affirmation d'un non-alignement par rapport à l'axe Tel Aviv-Washington de la part de Mascate, de la part du sultanat d'Oman. Il est clair que la guerre civile au Yémen ne peut qu'inquiéter un pays comme le sultanat d'Oman. Et donc, il y a un besoin pour ce pays qui, malgré tout, reste petit, de se rapprocher d'un géant régional comme l'Iran pour faire valoir ses intérêts bien compris d'avoir la paix à ses frontières. Donc ça, c'est un premier dossier, c'est le dossier yéménite. Concernant le dossier palestinien, là encore, je crois qu'il faut le dire, l'Iran a représenté une ligne importante d'émancipation du peuple palestinien, notamment à partir de son soutien du Hezbollah au Liban. Là encore, quelque part, c'est une victoire pour la diplomatie iranienne, puisque un domino qui était plutôt pro-occidental vient aujourd'hui de rejoindre la grande chaîne qui unit les peuples de la région et qui passe de manière tout à fait fondamentale par Téhéran face à l'impérialisme des États-Unis et aux visées de l'entité sioniste. Donc les retombées, les conséquences sur le dossier palestinien se feront sentir du simple fait que l'Iran possède une politique étrangère cohérente et à ce titre-là agrège de plus en plus de pays de la région autour de cette ligne politique. Donc ça ne peut que renforcer le poids des Palestiniens dans le poids, si vous voulez, de la lutte contre les visées colonialistes de l'entité sioniste. Et donc, évidemment, c'est forcément bénéfique, à moyen terme du moins, pour le peuple palestinien et sa cause. Alors, je crois qu'il faut aussi souligner, c'est pas si négligeable que ça, le fait que la lutte contre le terrorisme maritime dans la région aujourd'hui, pour le monde entier, dans un contexte de crise énergétique, donc où il y a vraiment un besoin d'approvisionnement, que nous le voulions ou non, aujourd'hui, ce que le sultanat d'Oman a dit aux Occidentaux, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité possible des approvisionnements pétroliers de l'Europe occidentale et de la région, de l'Asie. Donc finalement, c'est toute une zone de croissance mondiale sans une présence nécessaire, je dirais même plus indispensable, et affirmé de l'Iran. Et tout ceci, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure le professeur Dorsier, ne serait pas possible si l'Iran n'était pas un pays dont les capacités d'innovation technologique, d'amélioration des processus productifs n'étaient pas connues de tous. Nous savons aujourd'hui que l'Iran est potentiellement un tout grand pays émergent à l'horizon 2050, en raison de sa diversification économique, de sa capacité de substitution aux importations par des producteurs iraniens et par la qualité, si je puis me permettre l'expression, de son capital humain. Une jeunesse formée, des techniciens, des ingénieurs et des scientifiques particulièrement compétents. Au total, si vous voulez, pour conclure sur votre question, en réalité, ce qui est aujourd'hui sur la table des Occidentaux à travers cette visite, c'est un poids de plus en plus clair de l'Iran dans la région, l'affirmation du rôle de votre pays comme stabilisateur de l'économie mondiale, puisque précisément, sans la présence maritime iranienne dans le Golfe, la sécurité des approvisionnements énergétiques n'est plus garantie à 100%. Donc là, vraiment, c'est une manifestation de puissance de l'Iran tout à fait impressionnante.
Merci.
Et qui va frapper clairement les Occidentaux, ça fait très net. Les esprits des Occidentaux, là, maintenant, ont quelque chose d'important à assimiler. Donc, en tout état de cause, cela prouve que le réveil des peuples, il est déjà là, il se manifeste dans votre région, notamment à travers cette visite, et c'est un échec majeur, un camouflé pour la politique étrangère unilatérale de Washington qui ne fonctionne plus dans la région.
Merci encore, M. Dupré. Une toute dernière question à M. le professeur Dorsier. Il nous reste 3 minutes, M. le professeur. Alors, ce rapprochement entre Téhéran et Mascate, ce non-alignement du sultanat d'Oman sur l'axe Washington-Tel Aviv, quelles en seront les répercussions sur la donne géopolitique régionale, voire internationale, M. le professeur?
Eh bien, elles permettront, à notre avis, à ce qu'on appelle les Occidentaux, au sens réel du terme, à savoir l'Europe et les États-Unis, de pouvoir agir de manière plus libre envers l'Iran et non pas d'être soumis à des impératifs venant justement de sociétés d'agitation financière ou autre que représente l'État d'Israël. Bon, à notre avis, c'est dire de façon simple ce que vous savez dans le secret ou disons de manière communément sentie. Les choses s'expriment là entre nous. Vous savez, le temps est terminé où des étés de grandes sociétés allemandes comme Siemens, par exemple, devaient lâcher leur entreprise en Iran sous pression dite américaine, sioniste américaine. Est-ce que, pour dire les choses très nettement, alors là, en une minute, est-ce que cette relation entre Oman et l'Iran, par exemple, à long terme, ne va pas dégeler, justement, ce bloc artificiel qui est le bloc américano-sioniste? Personnellement, je le crois, voyez-vous, parce qu'il y a un bluff dans le sionisme, c'est d'être présent partout. Or, ils ne sont pas présents partout. Ils sont en réalité, disons, des révolutionnaires professionnels qui visent le désordre pour se maintenir. Et l'Iran, qui est une des grandes civilisations, bien sûr, comme les civilisations occidentales, etc., l'Amérique elle-même est une fille de l'Europe, et non pas l'inverse, comme on le croit. Je crois qu'ils pourront choisir une voie juste. Je crois que c'est, pour un dernier mot, je dis, nous-mêmes, Européens, disons, nous faisons confiance au président de la République iranienne pour son réalisme. C'est la vertu, à mon avis, qu'il faut avoir et éviter toute fausse idéologie.
Monsieur le professeur Pierre Dorsier, philosophe et politologue, Monsieur Xavier Dupré, économiste et analyste politique, merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci voilà, bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette troisième édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. L'avarice est une honte, la peur est une imperfection, et la pauvreté empêche l'homme de défendre ses droits, car le misérable est un étranger dans sa communauté. Aujourd'hui, comme dans le passé, il y a des individus qui aspirent à réformer leur communauté dans tous les domaines. Dans cette maxime, de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, souligne que l'avarice, la peur et la pauvreté sont des obstacles qui empêchent non seulement l'élévation individuelle des membres de la communauté, mais empêchent également la réforme et l'amélioration des conditions de vie collective de toute la société. Autrement dit, tous ces trois éléments portent préjudice à l'individu, non seulement dans sa vie privée, mais ils ont également un impact négatif sur l'existence collective de tous les membres de la communauté. L'avarice est une honte, nous dit cette maxime du vénéré imam Ali béni soit-il. Sur le plan individuel, l'avarice est un caractère moral et comportemental d'une personne qui a tendance à restreindre à l'excès ses dépenses. Ce trait de caractère dominant interdit à l'individu de dépenser son argent et ses avoirs, alors qu'il a pourtant la possibilité et le droit de le faire en toute liberté. Sur le plan social, l'avarice est le contraire de la générosité, le trait de caractère qui est la qualité de celui qui fait preuve de l'altruisme et qui est disposé à sacrifier son intérêt personnel. L'avare est par contre celui qui s'interdit de son droit à dépenser son argent et ses avoirs. Il n'est pas prêt à donner aux autres ce que Dieu le Très-Haut lui a donné. Dans la maxime du vénéré imam Ali béni soit-il, l'avarice a été considérée comme une honte. Sur le plan social, l'avarice a un impact négatif tant sur les aspects matériels de la vie collective que sur les relations et les échanges humains parmi les membres de la communauté. L'avarice est un obstacle devant la circulation libre et normale du capital et de la redistribution de la richesse selon les critères humains et moraux. Dans sa célèbre lettre à Malek al-Ashtar, le vénéré imam Ali béni soit-il dit « Tu vas gouverner les musulmans. Abstiens-toi de suivre les conseils des avares, car il ne pourra que de conseiller de ne pas suivre la vérité et la justice. Et il te fera toujours peur de la pauvreté et de la misère. » La peur est une imperfection, nous apprend cette maxime du vénéré imam Ali béni soit-il. C'est un élément qui se dresse comme un obstacle majeur sur le chemin de l'homme vers sa perfection et son élévation spirituelle. Celui qui a peur ne croit pas à ses capacités et ses pouvoirs. Il se sent toujours dans une position de faiblesse face aux autres, et il est souvent dans l'incapacité d'utiliser comme il faut ses mérites, ses talents et ses capacités matérielles et spirituelles. C'est la raison pour laquelle le vénéré imam Ali béni soit-il considère la peur comme une imperfection, ou plutôt une source de l'imperfection. Celui qui a peur, même s'il est un croyant et un serviteur du Seigneur, ne peut pas accomplir convenablement ses obligations religieuses, car la peur, comme une force intérieure, l'interdit de le faire comme il faut. Dans la lettre 53 de la Voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il dit à Malek al-Ashtar: ne choisis pas ceux qui ont peur comme conseillers. Et enfin, dans cette maxime de la Voix de l'éloquence, le premier imam des chiites, le vénéré imam Ali béni soit-il, souligne les défauts et les préjudices de la pauvreté, tant pour l'individu que pour l'ensemble de la communauté. La pauvreté empêche l'homme de défendre ses droits, car le misérable est un étranger dans sa communauté. Loin d'examiner les origines de la pauvreté, ici, dans cette maxime, le vénéré imam Ali béni soit-il en souligne les conséquences et les effets. La pauvreté empêche un individu, voire une société, de recouvrer ses droits et de se soulever contre l'injustice et l'oppression. La priorité étant donnée à la richesse, les pauvres subissent de plus en plus de préjudices. Car le misérable est un étranger dans sa communauté, ce qui signifie qu'il est privé de ses droits de citoyen, dans le langage moderne, et il est poussé dans une position marginale d'un citoyen de seconde zone.